Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens ?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaires qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
Ça part du principe qu'on ne dit pas la vérité.
Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité.
Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez.
C'est que l'année d'après, on fait des vaccins. Ah, quand même. Ah ouais, je te raconte pas. Ça va partir comme des petits pains.
La démocratie a été totalement bâillonnée en France.
Voilà, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment.
Hold up, le virus du complot, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient.
Les filles, vous avez vu le docu militant Hold Up par rapport au Covid ?
Ah oui, je l'ai vu passer dans plein de médias. C'est devenu viral même avant qu'il ne soit sorti.
Grave, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on les accuse de complotisme. Mais vous pensez vraiment que tous les gens qui regardent ces vidéos le sont ?
Je sais pas du tout, mais c'est hyper intéressant comme sujet. Faudrait peut-être qu'on en parle plus.
Bienvenue dans l'épisode numéro 3, intitulé Internet, l'accélérateur du complotisme, qui vous est présenté par Jeanne Augier, Péroline Rouillard, Elisabeth Rouet et Sarah Gay.
Qu'est-ce que le complotisme ? Comment s'est-il développé à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux ? Est-ce un phénomène nouveau ? Toutes ces questions, nous allons y répondre dans ce podcast.
Pour commencer, le complotisme n'est pas quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, Anne, la santé n'a pas attendu Internet pour devenir un sujet de complotisme.
Oui, totalement. Cette question a été traitée par l'anthropologue Didier Fassin, titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France en 2020-2021.
L'anthropologie de la santé publique a aussi pour mission d'explorer les zones d'ombre et notamment les territoires controversés. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle des théories du complot qui se sont développées de façon très importante ces dernières années autour des vaccins.
L'un des derniers complots en date, l'épidémie de grippe à H1N1. Pour certains groupes, comme l'explique Le Monde dans un article de 2019, ce seraient les Illuminati ou les francs-maçons qui auraient provoqué cette épidémie, voire même les Américains ou peut-être les Juifs. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans certains commentaires Twitter. Bref, le complotisme existe depuis longtemps, et il regroupe de nombreuses tendances idéologiques. Mais finalement, qu'est-ce que c'est, le complotisme ?
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Avait-il un nombril ? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë ? L'aventure est-elle au coin de la rue ? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur la gobert.
Alors, on nous cache tout, on nous dit rien. Titre de la chanson de Jacques Dutronc sortie en 1966, ou cri de ralliement des complotistes. Ces paroles écrites par Jacques Lanzmann mettent en fait en avant, avec beaucoup d'humour, un phénomène bien réel et qui se renforce d'année en année, la crise de confiance.
En effet, la France est le pays européen dans lequel les citoyens ont le moins confiance en leurs représentants politiques.
La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse, on nous cache tout, on nous dit rien, et l'affaire du masque de...
On assimile souvent de nombreux discours à du complotisme dès lors qu'ils ne coïncident pas avec la version officielle. Toutefois, une théorie du complot doit se distinguer de la simple expression d'un doute.
Quand on traite de la question des manifestations anti-pass sanitaires, on peut voir que la majorité des discours prônés ne sont ni complotistes, ni anti-vax.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une partie des manifestants qui se méfient des effets secondaires et du manque de recul de la médecine sur le vaccin. Et il y a une autre partie qui manifeste contre les prises de décision du gouvernement, mais sans forcément crier au complot. En réalité, aujourd'hui, les manifestations anti-pass témoignent surtout d'une méfiance envers les autorités, qu'elles soient politiques ou sanitaires.
Ces doutes découlent principalement de la difficulté à accéder à une information fiable au milieu de la masse présente dans les réseaux sociaux.
Mais Jeanne, comment on fait le tri entre ces informations ?
On peut en distinguer trois formes principales. Tout d'abord, la mésinformation qui est diffusée par des individus ignorant que l'information est fausse. Ensuite, la désinformation, c'est-à-dire une fausse information véhiculée par une personne consciente de la fausseté de cette information. Pour finir, la malinformation qui se fonde sur une réalité, parfois détournée, pour accuser une personne, une organisation ou un pays.
On peut donc croire que la théorie complotiste consiste simplement à affirmer des contre-vérités. Mais alors, les fake news sont obligatoirement des théories complotistes ?
On voit tout de suite les limites de cette définition. On ne peut pas dénoncer toute information biaisée comme conspirationniste. On se retrouve alors toujours au même point, la difficulté d'identifier une thèse comme complotiste ou non.
Nous pouvons donc définir une théorie complotiste selon plusieurs critères. Le premier est la déformation de la vérité ou la création d'une vérité alternative dans le but d'expliquer un phénomène ou une réalité. Le second consiste à accuser systématiquement une minorité de provoquer ces phénomènes dans un objectif bien précis.
Une théorie complotiste aujourd'hui s'appuie principalement sur des nuances ou sur la remise en question des motivations qui ont provoqué certains faits. Par là même, elle est donc moins facilement identifiable que certaines thèses un peu plus extravagantes qu'on a pu observer par le passé, comme ceux qui accusaient les reptiliens de gouverner le monde.
Il est donc important d'établir une définition précise de la théorie complotiste, chose qui n'est pas toujours faite dans les médias. On peut observer aujourd'hui une tendance à dénoncer une thèse comme conspirationniste dès lors qu'elle s'oppose à un discours communément admis. Ce phénomène permet de couper court à toute discussion en décrédibilisant l'opposition.
Nous recevons à présent Marie-Ève Carignan, professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
Bonjour Marie-Ève Carignan. Alors pour commencer, nous aimerions savoir comment s'explique le développement du complotisme dans le domaine de la santé et plus particulièrement en lien avec la crise sanitaire du Covid-19.
Ce qui est particulier dans le contexte de la COVID-19, c'est que ce sont des idées qui ont circulé très, très rapidement. Donc, à partir du début de la pandémie, on a déjà vu apparaître ces thèses complotistes-là et on les a vues très rapidement circuler. Donc, c'est vraiment ce qui est particulier, leur vitesse d'adhésion et leur vitesse de propagation. Le contexte socio-sanitaire, donc les mesures, notamment celles de confinement, ont favorisé l'adhésion aux thèses complotistes et la désinformation de différentes façons. Premièrement, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui étaient confinés chez eux avaient beaucoup plus de temps libre. Parfois, il y en a qui étaient donc sans emploi momentanément. Il y en a qui avaient plus de temps libre à la maison, télétravail. Et ça faisait en sorte que les gens avaient plus de temps pour aller aussi sur les plateformes de réseaux sociaux numériques, sur leur ordinateur. Et à ce moment-là, avaient plus de chances d'être exposés à toute cette désinformation et ces thèses complotistes qui circulaient au sujet de la COVID. Donc ça a été un premier facteur. Le confinement a favorisé l'exposition à ces thèses-là. Les gens qui étaient confinés chez eux devant des mesures exceptionnelles, mais cherchaient des réponses à leurs questions. Et les thèses alternatives, les fausses nouvelles offraient des réponses à une pandémie qu'on ne comprenait pas très bien, qui était nouvelle. On n'avait pas de réponses beaucoup pour comprendre ce qui se passait. Donc, c'était intéressant pour ces gens-là d'avoir ces réponses alternatives-là. Et à côté de ça, ce qu'on voit aussi dans nos données d'études depuis un an et demi, c'est que vraiment, il y a un lien. Les gens qui sont très méfiants envers le gouvernement, envers les mesures socio-sanitaires, qui les acceptent pas bien, qui les appliquent pas bien, mais souvent, il y a un lien. C'est des gens qui sont plus susceptibles d'adhérer aux thèses complotistes également. Et quand on adhère aux thèses complotistes, ben en général, on a tendance à être plus réfractaire aux mesures socio-sanitaires.
Quels sont, selon vous, les indicateurs de l'accélération de la diffusion des thèses complotistes depuis le COVID-19?
Depuis le début de la COVID-19, ce qu'on a vu, c'est vraiment l'apparition de nombreuses thèses complotistes en lien avec la COVID-19 qui ont circulé beaucoup plus rapidement que par le passé quand on a vu d'autres virus se propager. Donc, c'est vraiment un fait que les réseaux sociaux numériques ont facilité cette propagation-là. Ensuite, on a vu de nombreux nouveaux leaders, si on peut les appeler leaders, de ces mouvements-là qui ont été créés et qui se sont mis à partager ces idées complotistes-là, notamment dans la francosphère, donc de traduire des idées qui existaient, par exemple, aux États-Unis en français et de les faire circuler. Et nos analyses des réseaux sociaux numériques qu'on a réalisées avec la chaire nous montrent que vraiment, entre eux, ces leaders-là s'influencent beaucoup et partagent le contenu, donc ça donne encore plus de visibilité à ce contenu-là en ligne. Et il y a tous les algorithmes qui jouent là-dedans également. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle le rabbit hole, où des gens qui ont parfois même pas cherché du contenu complotiste finissent par être exposés à ce contenu-là en s'informant sur la politique américaine ou sur la COVID. Les algorithmes finissent par leur pousser du contenu complotiste. Pourquoi? Bien, parce que ce contenu-là fait vendre. Ce que les plateformes web se rendent compte, c'est que les gens qui adhèrent à ce contenu-là passent beaucoup, beaucoup d'heures en ligne. Et ça, c'est payant parce que ce que des plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter, on les cherche, c'est la rétention parce que ce qui est payant, c'est de maintenir la personne longtemps sur la plateforme. Et donc, pour faire ça, bien, le meilleur moyen, c'est de pousser du contenu qui attire l'attention et qui va susciter donc une grande présence en ligne. Les thèses complotistes répondent à ces critères-là. Les gens qui y adhèrent peuvent passer des heures et des heures à chercher du contenu puis à partager leurs trouvailles dans des chambres d'écho. Donc, vraiment, c'est du contenu qui attire et ça fait en sorte que, justement, même quand on ne l'a pas cherché, les algorithmes peuvent nous le pousser. Ils vont déjà le pousser si on le cherche, mais même si on ne le cherche pas parfois.
Merci beaucoup à Marie-Ève Carignan pour ses clés d'analyse des mécanismes du complotisme.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Du 27 mai 2021 au 30 janvier 2022, la Fondation EDF organise une exposition consacrée aux fake news et nous propose d'en comprendre les mécanismes.
Tous les jours confrontés à une multitude de données, il est nécessaire de faire du tri afin de distinguer ce qui relève de la désinformation et ce qui n'en est pas. Pour ce faire, de nouvelles technologies sont développées, à l'image de la blockchain. Celle-ci permet de vérifier la provenance d'un contenu et de s'assurer qu'il n'a pas subi de modification. Ce contenu se retrouve enregistré sur la blockchain, où une empreinte digitale est créée pour lui. Et lorsque ce dernier est utilisé, l'empreinte digitale devra correspondre à celle d'origine.
Finalement, la question des fake news a aussi pris un tournant d'enjeu national le 29 septembre 2021, quand l'Élysée a mis en place la déjà très controversée commission Brauner, aussi dite les Lumières à l'ère du numérique. Cette dernière est notamment chargée de faire des propositions face à l'emprise grandissante des théories complotistes et de la désinformation. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, elle doit rédiger un rapport qui sera publié et communiqué avant la fin de l'année 2021 aux candidats à l'élection présidentielle de 2022. Affaire à suivre donc.
Ainsi, nous pouvons dire que le complotisme concerne le domaine de la santé depuis un certain temps. Il n'a finalement été qu'accéléré et plus largement diffusé à l'heure d'Internet. Peut-être pouvons-nous parler de phénomènes complotistes, ou même de buzz ou de tendances complotistes ?
Alors que les réseaux sociaux permettent de diffuser très rapidement et à grande échelle des informations, vraies ou fausses, nous devons prendre du recul sur notre usage, afin de ne pas sombrer dans certaines théories complotistes. Aujourd'hui, et plus que jamais, nous devons vérifier les informations que nous voyons sur nos feeds et croiser les sources. En ce sens, les données concernant notre santé que nous éparpillons sur le net sont aujourd'hui des éléments clés.
Se faire vacciner et avoir un code QR induit des données qui peuvent être piratées et mises en danger. Des humains peuvent manipuler des données comme ils peuvent manipuler des informations. Cet enjeu questionne la notion de ce que nous appelons « matérialité du web ». Écoutez la semaine prochaine Pauline, Mounir, Juliana, Clara et Clément qui répondront à toutes vos interrogations sur ce sujet.
Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de Révolution numérique.
Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir. de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé,
Jean-Marie,
ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, tant dangereux. Trois semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire.